Tourne avec moi dans le livre, dans l'épître de Philémon. Dans l'épître de Philémon. Ouf! Premier indice, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est dans le Nouveau Testament. Philémon. Là, pendant que vous feuilletez, que j'entends les feuilles tourner, bien, je tiens d'abord à souhaiter une cordiale bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Sentez-vous vraiment à l'aise dans notre Église, sentez-vous en famille, et prenez cette liberté de participer à chaque partie du culte. Alors, si vous voulez lire un livre par jour dans la Bible et que ça, vous ne voulez pas trop forcer, vous lisez Philémon. Philémon, les versets 17 à 19. Alors, il y a des enfants ce matin, avec mon accent, je vais essayer de lire, tout en ne laissant pas entendre paraître que je lis, pour que vous puissiez bien me comprendre. Ça va, quand je lis, ça me permet de me forcer à articuler. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, versets 17 et 19. « Si donc tu me tiens pour ton ami, Philémon, reçois-le comme moi-même, reçois Onésime comme moi-même. Hein, reçois-le en fait comme si tu me recevais, c'est ce que le texte grec veut dire. Et s'il t'a causé du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris et je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. » Et en fait, je payerai, c'est que je te rembourserai. Je te rembourserai ce qu'il te doit, donc mets-le sur mon compte. Et quelqu'un a dit que cette épître à Philémon est la correspondance chrétienne la plus raffinée que nous possédons. Et on devrait s'y attendre puisqu'elle fut écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et pourtant, son contenu ici, quand on le lit, son contenu parle d'un esclave en fuite du nom d'Onésime, qui avait volé son maître et qui s'apprêtait à retourner auprès de celui-ci. Et en étudiant attentivement cette lettre, nous apprenons que dans la ville de Colosse habitait, eh bien, un chrétien qui était riche et qui s'appelait Philémon. Et celui-ci habitait probablement une grande maison, et comme beaucoup de riches de son époque, il possédait un certain nombre d'esclaves. Et là, on peut être surpris de voir des chrétiens qui avaient des esclaves à leur service, mais il faut penser que l'abolition de l'esclavage, ça a pris des années, avant que le christianisme puisse amener ça dans le milieu païen, amener le milieu païen à changer son point de vue là-dessus. D'ailleurs, vous avez vu que dans les années 1800, même 1700 aux États-Unis, malheureusement, pays soi-disant chrétien, eh bien, on faisait l'esclavage. Donc, c'est pas quelque chose. Il n'y a pas une société qui est à l'abri d'utiliser des gens pour qu'ils deviennent esclaves. On vit dans une société présentement où, parce qu'on a rejeté Dieu, parce qu'on a rejeté les valeurs du christianisme, on voit encore cette forme d'esclavage qui est en train de refaire surface. Et souvent, c'est quand on mêle Dieu à toutes sortes de choses que l'homme étant ce qu'il est, eh bien, si Dieu n'est plus au centre de la société, eh bien, l'être humain n'est plus considéré comme étant une personne, mais il est considéré comme étant un objet. Donc, c'est pas moralement mauvais d'utiliser des gens qui sont des objets, de les utiliser pour qu'ils deviennent nos esclaves. Et c'est ce qui se passait à l'époque de l'apôtre Paul. Quand vous regardez l'Empire romain, on ne traitait pas les êtres humains, les gens comme des êtres humains, mais c'était des objets. On en faisait ce qu'on voulait, et les esclaves n'avaient aucun droit. Et aujourd'hui encore, les policiers, que ce soit dans des usines clandestines ou quoi que ce soit, il y a des gens qui sont utilisés, qui travaillent vraiment comme des esclaves, qui sont utilisés comme des objets. Et ça aussi, c'est un indice jusqu'à quel point notre société est en pleine décadence et jusqu'à quel point notre société a carrément abandonné les valeurs de Dieu. Auparavant, à peu près tous les pays, en tout cas civilisés, avaient comme point de départ Dieu et ses valeurs. Et aujourd'hui, avec la Charte des droits et libertés, eh bien, c'est l'homme qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et là, ça provoque des difficultés. On retrouve encore une fois cette forme d'esclavage moderne dans notre société occidentale. Et lorsqu'on lit le passage ici, lorsqu'on lit l'épître à Philémon, eh bien, apparemment que Philémon se serait converti à travers le ministère de Paul dans le passé, et quelques années s'étaient écoulées, et cet esclave qui s'appelle Onésime avait fui son maître. Mais il semblerait, d'après le texte, qu'avant de fuir, eh bien, il avait volé son maître pour ensuite se réfugier à Rome, où il avait dépensé tout l'argent qu'il avait pris. Et même s'il faisait peu de cas de Dieu, Dieu avait quand même les yeux sur lui lorsqu'il a quitté la maison de son maître pour se rendre à Rome. Arrivé à Rome, il a rencontré l'apôtre Paul qui avait annoncé l'Évangile à son maître Philémon, et certains pensent qu'il serait entré en contact, c'est-à-dire Onésime, l'esclave, serait entré en contact avec Paul en prison après avoir été arrêté pour avoir commis certaines actions malhonnêtes ou parce qu'il était tout simplement allé visiter Paul en prison. En tout cas, Dieu sait comment amener un pécheur et un prédicateur de l'Évangile à se rencontrer, à faire en sorte qu'ils en soient ici, et c'est ce qu'il a fait, en fait, pour Paul et pour Onésime. Et moi, j'aurais une belle illustration à vous partager. Bon, les enfants sont là ce matin, je pense que c'est une illustration qui va être facile à comprendre. C'est Dieu qui... je viens de dire que Dieu permet des fois qu'un pécheur et un prédicateur d'Évangile se rencontrent pour amener le pécheur à la repentance et à se convertir. Et ça, c'est à l'époque de l'apôtre Paul, mais dans tous les siècles, à toutes les périodes de l'histoire, Dieu a préparé ses rendez-vous entre le pécheur et ses enfants pour qu'ils entendent l'Évangile et qu'ils se convertissent. Et au début du 20e siècle, je vais prendre un exemple de l'Amérique du Nord. En Europe, vu que je viens de l'Amérique du Nord, en Europe, je connais pas tellement bien les évangélistes qui ont passé, mais aux États-Unis et au Canada, ça va. Vers la fin du 19e, début 20e, il y avait un pécheur et un prédicateur qui vont se rencontrer. Ça, c'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est Sam Hadley, qui se trouvait en Californie, où il avait été invité à prêcher dans le plus grand amphithéâtre de la ville d'Oakland. Et ce soir-là, eh bien, ça se fait plus aujourd'hui, parce qu'il y a toutes sortes de restrictions, mais à l'époque, eh bien, on préparait les soirées d'évangélisation de la façon suivante, surtout dans cette partie-là de l'ouest des États-Unis. Il y avait l'armée du salut qui tapait du tambour, en tout cas qui était avec sa fanfare dans la rue, et les gens marchaient à la suite de l'armée du salut. Les gens qui regardaient la fanfare, eh bien, partaient des trottoirs, on se joignait derrière l'armée du salut, et la fanfare de l'armée du salut conduisait les gens dans une grande salle. Et c'est ce qui s'est passé cette journée-là. Il y a plus de 1000 personnes, en fait, qui étaient en arrière. Il y avait des chrétiens, bien sûr, pour attirer la foule, mais il y avait des chrétiens, et finalement, on a rempli une salle de 1000 personnes. Alors, on se promenait dans les rues principales de la ville, on serpentait, et là, on s'en allait, on savait où on allait dans une grande salle de théâtre de la ville. Et en l'espace de quelques minutes, eh bien, la salle était remplie à pleine capacité, et tous les sièges qui se trouvaient sur l'estrade, eh bien, étaient tous occupés par des serviteurs de Dieu. Et lorsque Sam Hadley s'avança pour prendre place derrière la chaire, eh bien, son siège fut laissé vacant. C'était le seul siège qui restait dans toute la salle. Et alors qu'il s'apprêtait à commencer son message, le président de la réunion aperçut la tête d'un homme qui sortait derrière le rideau, qui se trouvait derrière la scène. Donc, il y avait la scène, les serviteurs de Dieu étaient assis pour entendre le message, il y avait la foule qui regardait en avant, et là, il y avait un grand rideau noir, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui ouvrait le rideau, bon, il a vu juste la tête, quoi. Il essayait d'écouter le message que Sam Hadley apporterait. Et il entendait manifestement pas bien le message, puisqu'il a changé plusieurs fois de place, quoi. Il se promenait derrière le rideau. C'est fatigant pour ceux qui sont dans la salle, surtout que le rideau se promène comme ça, quand il y a quelqu'un qui se promène derrière les rideaux, qui cherche à un moment donné où il y a une séparation pour essayer d'écouter le message. Et ce qui est arrivé, c'est que le président de la réunion, ben, qui avait vu cette tête apparaître de temps en temps derrière le rideau, eh bien, il s'est levé, et il a invité le pauvre homme à prendre le siège qui se trouvait juste à côté de lui, c'est-à-dire le siège laissé vacant par Sam Hadley lorsqu'il s'est levé pour venir apporter la parole. Et de cette façon, eh bien, il a pu entendre clairement l'histoire de conversion de Sam Hadley, qui était un ancien alcoolique. Et lorsque Sam Hadley a eu terminé son message, le président de la réunion s'est levé pour clore la soirée, et il lui céda en fait son siège. Et dès qu'il fut assis, Sam Hadley se tourna vers la personne qui avait pris en fait son siège, qui se trouvait derrière le rideau, mais qui avait pris son siège, le seul siège vacant qui était le sien, a commencé à parler avec lui. Et alors que le président de la réunion allait prononcer la bénédiction de clôture, Sam Hadley se leva d'un seul bond et dit, « Monsieur le Président, est-ce que je peux dire quelque chose avant que vous prononciez la bénédiction? » Alors, on lui a laissé la parole et il dit, « Lorsque j'ai quitté New York il y a quelques semaines pour me rendre ici à Oakland, chemin faisant, je me suis arrêté dans la ville de Détroit pour m'adresser à des gens dans une mission chrétienne. Et je venais de terminer de parler, je venais de terminer finalement d'apporter mon message, lorsque un couple assez âgé est venu me trouver pour m'inviter à souper. Et je leur ai dit qu'ils devaient m'excuser parce que je me sentais pas bien. Et c'est vrai qu'à cette époque, Sam Hadley était vers la fin de ses jours, il était vraiment très âgé et pas nécessairement en bonne santé. Alors il leur dit, vous allez m'excuser parce que je me sens pas très bien. Et ça me demanderait de faire un grand effort physique de sortir le soir après une réunion pour aller visiter les gens. Donc, je préférerais retourner immédiatement me reposer. Et la dame était fort attristée. Il a vu que la dame, elle avait une grande tristesse dans ses yeux. Elle pleurait. Et elle dit, « Monsieur Hadley, nous voudrions vous voir vraiment, mon mari et moi, pour vous parler de quelque chose de très pénible que nous vivons tous les deux. » Alors, il était touché. Il a dit, « Écoutez, très bien, mais vous allez quand même me permettre de m'allonger pendant quelques minutes dans ma voiture et je vous accompagnerai par l'après. » Alors, il s'est rendu à la maison du couple en question où ceux-ci leur ont raconté leur histoire. Et la femme lui dit, « Monsieur Hadley, nous avons un fils qui s'appelle Jim. Il est né dans l'église. Il a fait l'école du dimanche. Il a fréquenté le groupe de jeunes. Nous espérions tellement qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il a commencé à travailler, il s'est mis à fréquenter certaines personnes dans le monde pour s'enfoncer toujours de plus en plus bas. Et au bout d'un certain temps, il est devenu dépendant de l'alcool. Et nous n'oublierons jamais la première fois qu'il entrait à la maison complètement ivre. Il lui arrivait de rentrer aux petites heures du matin et nous avions le cœur brisé de le voir dans cet état. Puis une nuit, il ne rentra pas du tout. Mais tôt le matin, après que nous ayons passé la nuit à l'attendre, il est arrivé fort énervé à la maison, le visage tout pâle en nous disant, « Je peux pas rester, je dois partir, ne me posez pas de questions. Hier soir, alors j'étais saoul, eh bien j'ai fait une bêtise. » Et si on me trouve, je vais passer un mauvais quart d'heure. Je ne peux pas rester une minute de plus dans la maison. Et aussi, je ne veux pas salir votre réputation. Alors, ils nous ont embrassés, dit la dame à Sam Hadley. Et depuis ce temps, nous n'avons plus entendu parler de lui. Et nous ne l'avons jamais revu. Et Monsieur Hadley, voici une lettre que nous avons reçue d'un ami qui vit en Californie, dans laquelle il dit être certain d'avoir vu notre fils à San Francisco. Donc, ceux qui ne connaissent pas tellement les États-Unis, c'est à des milliers de kilomètres, finalement, de l'endroit où ils habitaient. Cet ami se trouvait dans sa voiture l'autre jour, complètement immobilisé dans la circulation, lorsqu'il a vu notre fils Jim entrer dans une auto. Il n'a pu le rattraper, mais je suis certain que c'était votre fils Jim, nous écrit-il. Monsieur Hadley, notre fils est toujours vivant, et nous prions continuellement que Dieu le sauve. Nous avons appris ce soir, en vous écoutant, que vous allez vous rendre, que vous êtes en direction pour vous rendre en Californie, dans les semaines qui viennent, pour apporter une série de messages. Et nous allons prier chaque jour que Dieu permette à notre garçon Jim de vous entendre. Et peut-être que lorsqu'il apprendra de quelle manière Dieu a sauvé un ancien alcoolique, il réalisera qu'il y a aussi de l'espoir pour lui. Voulez-vous ajouter notre fils dans vos prières? Alors, Sam Hadley dit, je leur ai répondu que je m'engagerais à prier pour lui. Et nous avons prié ensemble. Ils m'ont fait promettre, dit Hadley, qu'à chaque jour et à chaque heure, à la même heure pendant qu'ils prieraient, je prierais pour leur fils Jim, afin que Dieu touche son cœur et qu'il me donne l'opportunité de l'amener à Jésus-Christ. Cela faisait maintenant des semaines que j'ai rencontré ce couple et j'ai toujours respecté ma promesse. Et là, il est toujours en train de s'adresser à la foule de 1000 personnes. Il est en train de raconter ça. Chers amis, c'est ma première réunion d'évangélisation en Californie. Et la personne qui est assise à côté de moi, c'est Jim. Ce soir, il était en train de boire dans un café sur la route principale lorsqu'il a entendu la fanfare de l'armée du salut, les cantiques chantés par la foule qui déambulait dans la rue. Il a suivi les gens jusqu'à la porte de cette salle et il s'est dit, « Je crois que je vais entrer. » Et lorsqu'il est entré, il était trop tard. Toutes les places étaient prises et un policier a dit qu'on ne pouvait plus accepter qui que ce soit à l'intérieur de la salle. Jim s'est dit en lui-même, c'est bien ma chance. Même si je vais entendre l'Évangile, je ne peux pas, je vais retourner boire au café. Et il marchait, il avait commencé à marcher en direction du café, lorsqu'il a fait demi-tour, déterminé à trouver un moyen d'entrer à l'intérieur de la salle. Alors, il a contourné l'extérieur de la salle par l'extérieur, et pour se retrouver devant la porte arrière qui était ouverte et qui donnait derrière l'estrade. Et il s'est fait offrir finalement ce siège qui se trouve à côté de moi, dit Sam Hadley. Mes amis, je viens de parler avec Jim et il veut recevoir Christ. Je vous demande de tous prier pour lui. Ce soir-là, les gens dans la salle virent Jim se mettre à genoux et confesser son péché, se repentir et recevoir Jésus-Christ comme sauveur. La dernière fois que Sam Hadley vit Jim, ce fut à la Western Union Telegraph, où Jim envoyait un télégramme à ses parents en leur disant « Dieu a entendu vos prières, je suis maintenant sauvé. » Mes amis, combien Dieu aime le pécheur et qu'il désire tout ce qui soit sauvé. Combien il prend plaisir à atteindre les perdus et ceux qui sont dans le besoin. Et moi, je trouve que c'est pas une illustration, c'est un fait vécu. Et si ça peut être une source d'encouragement pour les parents qui prient jour après jour pour la conversion de leurs enfants, eh bien, c'est un encouragement à ne pas vous décourager. Continuez à prier pour vos enfants. Dieu entend vos prières et Dieu va les exaucer parce que ça fait partie du plan de Dieu de vouloir sauver, de vouloir amener tous, de faire en sorte que tous arrivent à la repentance. C'est vrai, on connaît pas l'avenir. C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui veulent pas recevoir le salut, mais le cœur de Dieu, le salut de Jésus-Christ, mais le cœur de Dieu, c'est que tous parviennent au salut. Vous êtes amen à ça ce matin? Hein, c'est que tous parviennent au salut. On mérite pas plus le salut que d'autres personnes, mais on doit se rappeler que dans sa grâce, il y a sûrement des gens qui ont prié. Il y a sûrement des gens qu'on ignore, qui ont prié pour notre conversion. Et ce sont des chrétiens qui, un jour, on les a rencontrés, ont ouvert la bouche et qui nous ont parlé de l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ à la croix. Et ce même Dieu qui a sauvé Jim, eh bien, a porté aussi son regard sur Onésime dans Philémon. Il l'a vu lorsqu'il a volé son maître Philémon et prend ensuite la fuite. Il le voyait lorsqu'il marchait vers Rome et à un moment donné bien précis, il lui a permis de rencontrer Paul face à face. Et à travers ce même évangile qui avait conduit Philémon à Jésus-Christ, Onésime, cet esclave malhonnête, qui risquait en tout cas de se faire couper la tête s'il se faisait arrêter, eh bien, fut également sauvé par la grâce de Dieu. Et moi, je peux m'imaginer Onésime qui rencontre Paul à Rome en disant, « Écoute, Paul, je voudrais avoir ton avis. Il y a quelque chose qui me tourmente. Tu connais mon maître Philémon. Eh bien, je dois t'avouer que je l'ai volé, que je me suis enfui de chez lui. Et je dois maintenant retourner chez lui et essayer de réparer ce que j'ai fait de mal. » J'imagine la conversation qu'il y a eu entre Onésime et Paul quand ils se sont rencontrés, quoi. Voilà bien une preuve qui confirme que les gens sont réellement nés de Dieu. C'est lorsqu'ils veulent réparer ce qu'ils ont fait de mal dans le passé. Ils veulent avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui avaient été meurtriers dans le monde? Des gens qui ont tué? Des gens, quand ils se sont convertis, eh bien, qui se sont allés se livrer à la police et qui ont accepté de faire 25 ans de prison pour les crimes qu'ils avaient commis quand ils étaient dans le monde? Ils devaient faire la peine qui méritait leur crime. Et j'ai lu un récit récemment d'un meurtrier qui avait été condamné à 25 ans de prison et par toutes sortes de, et qui était en fuite, en fait, et qui s'est converti, et qui a eu la conviction qu'il devait se rendre aux autorités pour purger sa peine. Et chose épouvantable, ça se passe juste aux États-Unis, hein, je pense. Eh bien, on avait perdu son dossier. Et on a dû le laisser en liberté. Donc, Dieu a des moyens incroyables, quoi. Mais il avait avoué son péché, il avait confessé Jésus-Christ, il s'est livré aux autorités. Et il faut vraiment bien connaître le système des États américains pour comprendre qu'on peut perdre des dossiers. Mais c'est ce qui est arrivé, quoi. Dieu a quand même honoré son geste. Et cet homme-là, eh bien, a développé un ministère auprès des prisonniers et a annoncé l'Évangile de Jésus-Christ. C'est merveilleux de voir comment Dieu, à un moment donné, peut amener des gens à la conversion et faire en sorte qu'ils soient un témoignage digne de Jésus-Christ, alors que dans le monde, eh bien, ils sont considérés comme des moins que rien. Est-ce qu'on est prêt à payer, nous, ce prix rembourser ou de pouvoir réparer ce qu'on a fait de mal quand on était dans le monde? Qui a vu la croix de Jésus en Chine, ici? Ah, il n'y en a pas beaucoup, on va leur passer devant. Ah, on va passer en 2013. Voilà. Ah, ces chrétiens chinois qui sont condamnés à faire de la prison parce qu'ils ont annoncé l'Évangile. et un chrétien chinois, que je me souviens pas du nom, mais qui est condamné à faire 20 ans de prison, et parce qu'il est en train d'évangéliser tous les gardiens dans la prison, au bout de 10 ans, veut le libérer. Et lui s'accroche après les barreaux en disant, non, vous allez respecter la sentence que vous m'avez donnée. Moi, c'est 20 ans, je veux faire mes 20 ans, quoi. Il n'est pas question que vous me libériez au bout de 10 ans, quoi. Mais il tombe sur les nerfs du directeur de prison parce qu'il témoigne à tout le monde, il témoigne aux gardiens. Et les chrétiens sont les gardiens sont de moins en moins cruels envers les prisonniers. Et ça fatigue le directeur de la prison. Et lui, il s'acharne à ne pas quitter la prison. Il dit, non, moi, j'étais condamné à 20 ans et je veux faire mes 20 ans. Hey. Qui serait prêt à... On réduit ta peine de 20 à 10. Il dit, non. Pas question. Moi, je veux faire mes 20 ans. C'est des gens qui méritent de faire partie des héros qui méritent qu'on rallonge la liste des héros de la foi dans Hébreux, chapitre 11. Les gens qui sont capables d'agir de cette façon-là, c'est comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne. Abraham, Moïse, ils avaient les yeux fixés sur la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cette cité merveilleuse que Dieu est en train de nous préparer. Vous n'avez pas les yeux fixés sur ce qu'il y a dans le monde, c'est décourageant, c'est déprimant. Et on sait que tout ça, c'est appelé à disparaître. Mais la Bible nous dit qu'ils avaient les yeux fixés sur la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et Moïse avait les yeux fixés sur la récompense à venir. J'espère que ce matin, vous avez vos yeux fixés sur celui qui est en train, sur la cité que Dieu est en train de construire pour vous, pour moi. Et aussi que vous avez les yeux fixés sur la récompense à venir, la nouvelle Jérusalem. Tantôt, lorsque Michaël faisait la Sainte Cène, moi j'ai tourné dans Luc, chapitre 22, où c'est un passage de la Sainte Cène, où Jésus rappelle à ses disciples que c'est vrai qu'ils vont occuper 12 sièges pour juger les 12 tribus d'Israël, mais en même temps, il leur dit, écoutez, vous avez une place de réservée autour de ma table dans le royaume de Dieu. Et frères et sœurs, vous avez une place de réservée autour de la table du Seigneur dans le royaume des cieux. Ou Noé, ou Adam, ou David, ou Jacob, ou tous ces héros de la foi qui nous ont précédés vont être là. C'est pas extraordinaire. C'est amen à ça? Hein?
Ouais.
C'est extraordinaire, ça. Hein? Moi, j'imagine Noé. Vous avez déjà imaginé le visage de Noé? Hein? Parce qu'il y avait une barbe, Et revoir tous ces gens qu'on a lus, qu'on lit régulièrement dans nos paroles, dans la parole de Dieu, c'est extraordinaire. J'essaie de continuer et de terminer pour que le fil du message se suit. Alors voilà, je pense que c'est l'entretien que Philémon a eu avec Paul. Et Paul, eh bien, va dire à Philémon, écoute, moi je connais, va dire à Onésime, moi je connais Philémon, c'est un homme qui est bon, c'est un chrétien, c'est un homme qui a un esprit, qui est animé d'un esprit de pardon. Je vais lui écrire une lettre. Et la lettre qu'il va lui écrire, eh bien, elle est assez importante. C'est vraiment un chrétien mature qui va écrire ce genre de lettre-là. Avant de vous lire la lettre, je vais simplement je vais simplement essayer de vous laisser imaginer ce que Philémon a pu penser quand il a vu Onésime arriver, son esclave qui l'avait volé. Onésime qui avait tous les droits sur son esclave, on peut s'imaginer ce qu'il a pensé, pour quelle raison il revient à la maison, pour quelle raison, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est honnête, il ne sait pas qu'Onésime s'est converti. Et là, eh bien, il va commencer à lire la lettre, finalement on va dire, écoute mon maître, je viens vraiment le cœur repentant, et voici ce que j'ai, voici mon sauve-conduit, je te donne une lettre qui est écrite par la main de Paul. Et Philémon va commencer à lire la lettre, il va l'ouvrir, il va lire la première chose, qu'est-ce qui est écrit au verset 1 de Philémon? Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, et Philémon va s'arrêter de lire, il va dire à Onésime, où as-tu rencontré Paul? T'arrives avec un document de Paul, je reconnais la signature de Paul, mais où as-tu rencontré Paul? L'as-tu rencontré personnellement? Oui, maître, il était incarcéré à Rome, et c'est lui qui m'a conduit à Christ, et il m'a donné ce document-là pour que je me présente devant toi. Et là, eh bien, il est écrit aussi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Raphia. Donc, la sœur Raphia, c'était la femme de Philémon. Et là, eh bien, je suis persuadé que Philémon doit avoir dit, Raphia, viens faire un tour. Viens voir, viens ici. Viens ici, j'ai reçu une lettre de Paul. Notre frère bien-aimé, Paul, viens. Et on va la lire ensemble. Et je suis pas convaincu que la femme de Philémon, quand elle l'a vu, qu'elle a vu Onésime, qu'elle avait un grand sourire sur la bouche, quoi. C'est quelqu'un qui était esclave, c'est quelqu'un qui était parti avec de l'argent, qui revenait, il avait tout dépensé. Et pourtant, lorsque Philémon va lire la lettre, il va s'arrêter au verset 8 et 9. Les versets 8 et 9 sont importants dans la lettre. « Bien que toute liberté me soit donnée par le Christ de t'ordonner ce que tu dois faire. » Ça, c'est vraiment une lettre, là. Ça, on n'est pas là, on va dire, « Écoute, je t'ordonne, tu dois obéir, pas de non. » C'est vraiment une lettre qui est remplie d'amour, c'est vraiment une lettre qui est faite dans l'amour du Seigneur. Il dit, bien que toute liberté, ah, c'est Paul qui parle, bien que toute liberté me soit donnée par le Christ de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant prisonnier à cause de Jésus-Christ, je t'adresse une demande, c'est-à-dire une prière, en faveur d'Onésime. Il est devenu mon fils en Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai amené à Jésus-Christ. Et pour écrire une telle lettre, Paul devait avoir l'assurance que Philémon était né de nouveau, sinon il envoyait l'esclave Onésime directement à la mort. Et Philémon s'est peut-être dit, ben je me demande si Onésime lui a dit quoi que ce soit concernant l'argent qu'il nous a volé. Je sais pas si Onésime joue un jeu. Et là, verset 11. Paul, il est conscient que Onésime, il servait pas Philémon avec un cœur sincère. Il va lui rappeler qui autrefois, cet esclave, qui autrefois t'a été inutile. Mais maintenant est utile et à toi et à moi, et je te le renvoie maintenant, versets 11 et 12. Et là, Philémon continue à lire la lettre. Ah, il est possible que ce soit dit en lui-même, quelle belle fripouille, cet Onésime, quoi, quel beau voleur, quel beau menteur, quoi. Il s'est peut-être dit, peut-être que Paul croit qu'il est sauvé, mais moi, je suis pas encore convaincu, quoi. Et là, regardez le verset 18. S'il t'a causé du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je rembourserai. Et je n'ai certes pas à te rappeler que toi, tu me dois ta propre vie. Moi, Paul, écoute, mets ça sur mon compte. Moi, Paul, je vais te payer. Et je pense qu'à ce moment-là, au verset 18, je pense que le cœur de Philémon, il a été conquis. Il a confessé son péché Onésime, il a avoué sa culpabilité. Et là, Philémon pense à Paul, ce fidèle serviteur de Dieu, qui souffre en prison pour l'amour de Christ, et qui dit, mets cela sur mon compte, je te rembourserai, Philémon. Je paierai pour lui. Paul devient la police d'assurance d'Onésime. Il devient son garant. Il le cautionne. Il se met lui-même en caution. C'est comme si Paul écrivait aujourd'hui, « Mets ce qu'il te doit sur mon compte. » Vous voyez où on veut en venir? N'est-ce pas une belle image de l'Évangile, frères et sœurs? Une image de ce que notre Sauveur Jésus-Christ a fait pour quiconque se repent? Je le vois présenter le pécheur repentant devant le trône de la grâce de Dieu en disant, « Père, Jacques t'a fait du tort. Il te doit beaucoup, mais tu as tout mis sur mon compte. Libère-le. Christ a pris à son compte vos péchés, mes péchés. Dieu est votre police d'assurance pour que vous ayez la certitude que vos péchés sont pardonnés. Christ a cautionné. Il est notre caution auprès de Dieu. Il s'est rendu responsable de vos péchés, lui qui était sans péché. C'est ce que le texte veut nous faire réaliser ici à travers cette lettre que Paul a écrite à Philémon. Quel beau parallèle pour le message de l'Évangile. Comment le Père ne pourrait-il pas recevoir la prière de son Fils Jésus après la mort ignoble et non méritée qu'il a subie à la croix, lorsqu'il s'est porté garant pour vous, pour moi, en prenant sur lui ce que nous méritions et qu'il a souffert à notre place? La garantie, il a pris sur lui, et il est devenu notre garant, notre police d'assurance que nos péchés sont pardonnés. Et comment nous savons que nos péchés sont pardonnés? C'est pas juste à la croix, c'est grâce à la résurrection. Dieu confirme que nos péchés sont pardonnés, qu'il a accepté le sacrifice de Jésus, parce qu'il l'a ramené de la mort à la vie. Observez maintenant que ce n'est pas seulement Paul qui s'est offert pour devenir une assurance pour Onésime. Il n'a pas seulement offert de tout régler pour Onésime en ce qui concerne son passé, mais il a pourvu pour le futur. Qu'est-ce qu'il dit à Philémon ici? On va terminer avec ça. « Si donc tu me tiens pour ton ami, verset 17, reçois-le comme moi-même. Et n'est-ce pas un autre aspect du salut, frères et sœurs? Nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Le Sauveur apporte celui qui a été racheté dans la présence du Père en disant, « Mon Père, si donc tu me tiens pour ton ami, moi ton fils, reçois-le comme tu me recevrais toi-même. » C'est ça le salut, c'est extraordinaire, non? On n'est pas capable de payer la dette que vaut notre péché. Et là, on a quelqu'un qui est innocent, qui dit, « Écoute, moi j'ai les moyens d'être payé. Moi j'ai les moyens de payer la dette que tu dois à Dieu pour ton péché. » Et tu seras jamais capable de la rembourser. Veux-tu que je te cautionne? Veux-tu que je sois ta police d'assurance? Veux-tu que je sois ton garant? Hey, le Seigneur, tout ce qui attend de notre bouche, c'est qu'on dise oui. Vous imaginez si Onésime avait refusé la lettre de caution de Paul? Il se faisait arracher la tête, c'était le jugement qui l'attendait. L'esclave, à l'époque, il valait pas plus qu'un chien. C'était sa tête qui partait. Paul dit, écoute, t'es un frère en Christ. T'es même mon fils en Jésus-Christ. Moi, je vais me porter garant pour toi auprès de Philémon. Et c'est la même chose pour Jésus à la croix. Tu es maintenant un enfant de Dieu, moi, devant le trône de la grâce du Père, je vais me porter garant pour ton salut. Je me porte garant pour le pardon de tes péchés. Est-ce que tu acceptes que je sois ton garant? Tu veux essayer de gagner ton ciel par toi-même? Tu vas te faire couper la tête à la fin des temps quand le jugement va tomber. Et c'est ça le parallèle avec l'Évangile ici. C'est extraordinaire, quoi. Le Père, le Fils apporte, le Sauveur apporte celui qui a été racheté dans la présence du Père en disant, « Mon Père, si donc tu me tiens pour ton Fils, je suis ton ami. Reçois-le, reçois Jacques, reçois Marcel, reçois Paul, reçois Monique. Reçois-le comme si tu me recevais toi-même. Parce que je me suis porté garant pour eux et ils ont accepté cette police d'assurance à la croix. » Et cette police d'assurance à la croix, je l'ai pas signée avec un crayon, je l'ai pas signée avec une plume, je l'ai signée par mon propre sang. Amen. Ouais. Le défi, frères et sœurs, vous savez c'est quoi? Pour nous, en attendant qu'on soit rappelé dans la présence du Père, c'est qu'on garde nos yeux fixés sur cette cité que Dieu est en train de construire pour nous. C'est qu'on garde nos yeux fixés sur cette récompense qui nous attend dans le royaume des cieux. Sinon, on va se détacher du Père, on va se détacher des promesses et on veut vivre comme les gens du monde. On n'est pas plus fort que les autres. Paul dit, reçois-le non plus maintenant comme un simple esclave. En verset 16, pour moi qui le dit, c'est lui. Regardez. Reçois-le non plus comme un simple esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Il m'est particulièrement cher. Mais il doit l'être encore plus pour toi, Philémon, aussi bien comme esclave que comme frère dans le Seigneur. Il est maintenant appelé à prendre non pas la place d'un esclave, mais la place d'un membre honoré de la famille et un frère en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus-Christ. On était esclaves du péché, on vivait comme des esclaves. On se vautrait dans la boue du péché. Et Christ nous a lavés. Et on n'est plus considérés comme des esclaves. On est considéré comme des bien-aimés en Jésus-Christ. Hein, on a parlé de ça il y a plusieurs semaines, des bien-aimés. Et ça fait 2 semaines que je le dis dans chaque message. Le privilège du vrai christianisme, le privilège du chrétien qui est né de nouveau, c'est d'être libéré de la puissance que le péché exerce dans sa vie. Amen. Pourquoi? Pas parce que vous êtes capable, vous en êtes incapable de vous en libérer dans votre chair. Parce qu'à la croix, Christ est devenu votre garantie. Il vous a libéré non seulement de la puissance que le péché exerce dans votre vie, il vous a aussi libéré de la puissance que le diable exerçait dans votre vie. Et il vous a aussi libéré de la puissance que le monde exerçait dans votre vie. Vous êtes encore amen à ça? Oui. Vous pouvez penser à une des trois, mais vous êtes foutu pour les deux autres. Vous devez avoir la conviction dans votre cœur que vous avez été libéré pour les trois. Vous avez été libéré du diable, libéré du monde, libéré du péché. Et là, vous allez être capable de marcher, comme Jean nous dit dans sa première épître, vous allez être capable de vivre comme Jésus-Christ a vécu. Amen? Amen. Okay. On va arrêter là pour ce matin. Ma prière, c'est que chacun se voit racheté à travers Jésus-Christ, parce que Christ a mis sur son compte, il s'est porté garant pour nous auprès du Père. Quel amour pour nous! Et Paul nous le rappelle dans Romains chapitre 4, verset 25, il a été livré à la mort à cause de nos péchés, il a été ramené à la vie pour nous rendre justes devant Dieu. Et ce matin, j'espère que c'est votre certitude dans votre cœur ce matin, que vous avez été justifié en Jésus-Christ, et que la condamnation que vous méritiez, C'est lui qui l'a pris parce qu'il a osé devenir votre caution, il a osé être se porter garant. Et lui, parce que vous n'êtes pas capable de respecter votre engagement, eh bien, c'est lui qui a pris la punition. Votre engagement de pécheur, je parle, hein, il a pris sur lui tout ce que vous méritiez, il a pris sur lui tout ce que je méritais. Et par la grâce de Dieu ce matin, eh bien, gardons nos yeux fixés sur cette cité céleste, gardons nos yeux fixés sur cette récompense à venir, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen.